Chapitre 4. Lorsqu'après le départ de la femme de chambre, madame de Lustval et madame d'Infreville se trouvèrent seules, celle-ci dit à son amie : Tu m'as proposé de finir la journée ici. J'acceptais ton offre, ma bonne Florence, autant pour rester auprès de toi que pour donner, en cas de malheur, quelque apparence de vérité à mon mensonge. Mais ma lettre, je serais censé m'être croisé avec elle et être venu chez toi après la lettre envoyée. C'est juste. Maintenant, mon ami, je réclame toute ton indulgence, peut-être aussi la compassion pour ce qui me reste à te confier. Compassion, indulgence, est-ce que tout cela ne t'est pas assuré d'avance, pauvre Valentine, malheureuse comme tu l'étais en ménage, froissée, humiliée, dégradée, qui ne te plaindrait? Mais voyons, je t'écoute. Je ne sais si je t'ai dit que nous occupions le premier étage de l'hôtel de M. d'Infreville. Des fenêtres de ma chambre à coucher, on plonge directement dans un petit jardin dépendant du rez-de-chaussée de la maison voisine. 3 mois environ avant que j'eusse découvert que mon mari avait une maîtresse, et alors qu'il était encore très souffrant, le jardin et le rez-de-chaussée dont je te parle, inhabités depuis quelque temps, subirent de grands changements. Le genre de vie que je menais alors me retenait presque constamment chez moi, la mauvaise santé de mon mari l'empêchant de sortir. C'était au commencement de l'été, retiré dans ma chambre pour être plus chez moi lorsque M. d'Infreville n'avait pas besoin de mes soins. Je travaillais souvent auprès de ma fenêtre ouverte. La saison était magnifique. Je remarquais ainsi les changements qu'on faisait au jardin voisin. Ils étaient singuliers, mais ils annonçaient autant de goût que d'originalité. Peu à peu, dans mon triste désœuvrement, ma curiosité s'éveilla. Je voyais chaque jour les ouvriers exécuter ces travaux, sans apercevoir jamais le nouvel habitant du rez-de-chaussée. J'assistais de la sorte à la transformation d'un jardin assez maussade en un lieu délicieux. Une serre remplie de plantes rares et communiquant à l'une des pièces de l'appartement fut appuyée au mur du midi. Le mur qui lui faisait face disparut sous une grotte de pierres rocheuses entremêlées d'arbustes. De l'un des côtés de ce rocher, une cascade retombait dans un large bassin et répandait partout la fraîcheur. Enfin, une galerie de bois rustique, recouverte en chaume et espacée par des arceaux, dissimulait l'autre pan de muraille dont était entouré ce jardin, qui fut bientôt tellement encombré de fleurs que de ma fenêtre il ressemblait à un gigantesque bouquet. Tu comprendras tout à l'heure pourquoi j'entre dans ces détails. Mais ce ravissant séjour, au milieu de Paris, c'était un petit paradis. C'était charmant, en effet, car les murailles disparaissaient sous les plus riants aspects. Une volière dorée, remplie d'oiseaux magnifiques, s'éleva au milieu d'une pelouse de gazon, une sorte de véranda indienne, formant une légère galerie couverte, fut construite devant les fenêtres du rez-de-chaussée et meublée de sofas, de coussins turcs et d'épais tapis. On y transporta aussi un piano. Cette galerie à jour, au besoin abritée par des stores, offrait pour l'été une retraite pleine d'ombre et de fraîcheur. En vérité, c'est un conte des mille et une nuits. Quelle imagination ne fallait-il pas pour rassembler tant de merveilles de goût et de bien-être dans un si petit espace? Et l'inventeur ne paraissait pas. Il ne parut que lorsque tous ces arrangements furent terminés. Et déjà, tu n'avais pas été assez curieuse pour tâcher de savoir quel était ce mystérieux voisin? Moi, je te l'avoue, je n'aurais pas résisté à la tentation. Valentine sourit tristement et reprit. Le hasard avait voulu que la sœur d'un vieux maître d'hôtel de M. d'Infreville fût l'unique servante de ce mystérieux voisin. Renseignée par son frère, cette femme avait même indiqué à son maître cet appartement et ce jardin. Un jour, cédant à ma curiosité, je demandai à notre maître d'hôtel s'il savait qui devait venir habiter le rez-de-chaussée de la maison voisine. Il me dit que sa sœur était au service de ce nouveau locataire. J'appris ainsi sur lui certains détails qui déjà n'excitèrent que trop mon intérêt. Vraiment, et qui était-il, ma chère Valentine? Il n'y avait pas au monde, disait-on, dame meilleure et plus généreuse que la sienne. Pour t'en donner un exemple entre plusieurs, lorsqu'à la mort d'un oncle dont il héritait de biens assez considérables, il voulut prendre plusieurs domestiques, Cette vieille servante dont je t'ai parlé et qui avait été sa nourrice de lait lui dit, les larmes aux yeux, que jamais elle ne pourrait s'habituer à voir chez elle d'autres serviteurs qu'elle. En vain, il lui promit qu'elle serait au-dessus de tous et considérée comme femme de confiance. Elle ne voulut entendre à rien. Lui, dans sa bonté parfaite, n'insista pas, et malgré sa nouvelle fortune, il garda uniquement à son service cette vieille servante. « Cela te semble puéril, peut-être, ma chère Florence, mais... »« Que dis-tu ? Au contraire, je trouve ce sentiment d'une délicatesse touchante. Souvent, il n'en faut pas davantage pour juger sûrement d'un caractère. » Aussi, dès ce moment, je jugeais notre voisin bon et généreux. J'appris aussi, avant de l'avoir connu, qu'il se nommait Michel Renaud. « Ah, mon Dieu ! » s'écria Madame de Luceval. « Michel Renaud ? Sans doute, mais qu'as-tu donc, Florence ? Voilà qui est étrange. Achève. Est-il fils du général Renaud, mort dans les dernières guerres de l'Empire ? Oui, tu le connais. Il est cousin de Monsieur de Luceval. Michel ? Et il ne se passe presque pas de jour que mon mari ne me parle de lui. De Michel ? Sans doute. Mais je ne l'ai jamais vu, car bien qu'il ait été prévenu du mariage de Monsieur de Luceval avec moi, comme tous les membres de sa famille, il n'est pas encore venu nous voir. Cela ne m'étonne guère, car mon mari n'a jamais eu que peu de relations avec lui. En vérité, ce que tu m'apprends me confond. Michel, le cousin de ton mari. Et comment ? Et à quel propos, Monsieur de Luceval ? Te parle-t-il donc si souvent de Michel ? Hélas, ma pauvre Valentine, à cause d'un défaut qui m'est, à ce qu'il paraît, commun avec Monsieur Michel Renaud, défaut qui fait mon bonheur, défaut qui devrait être la sécurité de mon mari et qui fait son désespoir. Mais les hommes sont si aveugles. De grâce, explique-toi. Tu le sais, au couvent, j'étais signalé comme une incurable paresseuse. Que de remontrances, que de punitions j'ai subies pour ce cher défaut. Il est vrai. Eh bien, mon défaut a pris des proportions incroyables, si incroyables qu'il est devenu presque une qualité. Que veux-tu dire ? Figure-toi que, loin de vouloir les imiter, j'éprouve la plus grande compassion pour ces malheureuses femmes que leur fol amour du monde jette dans le tourbillon de ces fêtes. Triste plaisir, dont la seule pensée me donne le frisson, car hélas, n'est-ce pas, Valentine, on en a vu de ces infortunés, de ces martyrs volontaires, aller chaque jour, jusque dans 3 ou 4 bals ou soirées, sans compter les spectacles. Or, pour peu qu'elle soit coquette avec cela, c'est à faire frémir. Courir chez ses couturières, chez ses marchandes de mode, chez sa fleuriste, s'emprisonner dans un corset, faire 3 toilettes par jour, danser, valser, galoper, poquer, non. Vois-tu, Valentine, il faut avoir des membres d'acier, des tempéraments d'acrobate, pour se résigner à de tels exercices, et cela tous les jours, tous les soirs, toutes les nuits, pendant 4 à 5 mois de l'année. Ah, ma chère Valentine, qu'il y a loin de cette furie de délassement, dont un seul suffirait à me harasser, au délicieux repos que je goûte dans ce fauteuil où je passe ma vie, trouvant d'inépuisables jouissances dans l'indolente contemplation du ciel, des arbres, du soleil. L'hiver arrive-t-il ? Je me trouve tout aussi heureuse de me dorloter au coin de mon feu ou sous mon édredon, en entendant grésiller le givre à mes carreaux. Que te dirais-je ? Je savoure enfin, en toute saison, le suprême bonheur de ne rien faire, rêvant, songeant, tantôt éveillé, tantôt à demi endormi, lisant parfois quelques poètes, parce qu'il y a, pour ainsi dire, après chaque vers, un long repos pour la pensée. Je suis enfin capable, faut-il t'avouer cette énormité, de rester toute une journée couchée sur l'herbe, tantôt occupée à dormir, tantôt à regarder passer les nuages, à écouter le vent dans la feuillée, le bourdonnement des insectes, le murmure de l'eau. En un mot, ma pauvre Valentine, jamais sauvage rêveuse et paresseuse n'a ressenti plus délicieusement que moi la béatitude infinie d'une vie libre, oisive et indolente. Aussi, personne n'est plus que moi religieusement reconnaissante envers le bon Dieu, qui nous a doués de félicités si simples et si faciles. Mais, Valentine, reprit la jeune femme, en regardant son amie avec surprise, qu'as-tu donc ? Ces regards inquiets, cette émotion que tu contiens à peine ? Valentine, encore une fois, je t'en supplie, réponds-moi. » Après un moment de silence, Madame d'Infreville, passant sa main sur son front, reprit d'une voix légèrement altérée. « Écoute la fin de mon récit, Florence. Tu devineras ce que je ne puis, ce que je n'ose te dire en ce moment. Alors parle, parle, je t'en prie. » « La première fois que je vis Michel, reprit Valentine, il était sous cette espèce de galerie couverte dont je t'ai parlé. Il y passait sa vie durant l'été. Caché derrière ma persienne, je pus l'examiner à loisir. Je ne crois pas que l'on puisse imaginer des traits plus beaux que les siens. À demi couché sur un divan turc, vêtu d'une longue robe de chambre de soie de l'Inde, il fumait un narguilé dans une attitude de nonchalance tout orientale. Le regard fixé sur son jardin encombré de fleurs, il semblait écouter avec ravissement le murmure de la cascade et le gazouillement des beaux oiseaux de sa volière. Puis il prit un livre, qu'il déposait de temps à autre, comme pour songer à ce qu'il venait de lire. Deux de ses amis survinrent. L'un passe à juste titre pour un des hommes les plus éminents, les plus célèbres de ce temps-ci, c'était M. Certes, il n'est pas de personnage plus illustre et plus justement considéré. Je le connaissais de vue et de réputation. Sa très haute position, la différence d'âge qui existait entre Michel et lui, me firent trouver sa visite chez ce jeune homme inconnu presque extraordinaire. En effet, cette visite me semble flatteuse pour notre cousin. Michel l'accueillit avec une affectueuse familiarité. Il me parut que M le traitait sur le pied d'une égalité parfaite. Un long entretien commença. Éloigné ainsi que j'étais, je ne pouvais rien entendre. Pour compenser cet empêchement, et toujours caché par mes persiennes, je pris une lorgnette de théâtre et j'étudiai curieusement la physionomie de Michel pendant cette conversation. Je distinguai jusqu'au mouvement de ses lèvres. Je trouvai un singulier attrait dans cet examen, et sans deviner le sujet de l'entretien, je m'aperçus facilement qu'une discussion animée s'était élevée entre M et Michel. D'abord, celui-ci parut très énergiquement combattu. Mais bientôt je vis à l'expression du visage de M qu'il se laissait peu à peu convaincre par Michel, mais non sans résistance. Parfois, cependant, un signe d'assentiment spontané témoignait de l'avantage que prenait Michel et qui finit par lui rester. Je ne puis te peindre le charme des traits de ton cousin pendant ce long entretien. À leur mobilité, à ses gestes, je voyais qu'il employait tour à tour une chaleureuse éloquence, une fine raillerie, ou de graves raisonnements pour répondre à ses interlocuteurs et les ramener à son opinion. Ceux-ci marquaient leur adhésion tantôt par un sourire, tantôt par leur air convaincu ou entraîné. Cet entretien dura longtemps. Lorsqu'il fut terminé, les amis de Michel prirent congé de lui avec un redoublement de cordialité. Il fit mine de vouloir se lever pour les accompagner, mais eux le forcèrent gaiement à rester étendu sur son divan, semblant lui dire qu'il savait trop combien il en coûterait sa paresse pour se déranger. J'ai su depuis que M, ayant à prendre une résolution très importante, était venu, ainsi que cela lui arrivait souvent, consulter Michel, dont le tact était exquis et le jugement aussi élevé que solide. Que te dirais-je, mon ami, dès ce premier jour, qui me permettait déjà d'apprécier Michel, quoique jamais je ne lui eusse parlé, j'éprouvais pour lui un intérêt qui ne devait, hélas, que prendre trop de place dans ma vie. » Et la jeune femme resta un moment silencieuse. À mesure que Valentine parlait, Florence s'intéressait d'autant plus à ce récit et au héros de ce récit qu'elle lui trouvait de nombreux points de contact avec son caractère, avec ses goûts, avec ses penchants à elle. Monsieur de Luceval, en lui parlant de la paresse incurable de son cousin Michel en manière d'épouvantail, ne lui avait jamais rien dit de ce qui pouvait excuser ou poétiser ses dispositions morales et physiques de l'indolence. Florence comprit alors la surprise et peut-être même le sentiment de jalousie involontaire que Valentine n'avait pu dissimuler, alors que son ami lui développait ingénument sa théorie de la paresse et les délices qu'elle y trouvait. Sans doute Madame d'Infreville ne pouvait être aucunement jalouse de Madame de Luceval, c'eût été de la folie. Florence ne connaissait pas Michel Renaud, et elle se montrait trop sincère amie pour vouloir le connaître plus tard dans quelque sournois dessein de rivalité. Néanmoins, Valentine, ombrageuse comme toutes les natures violentes et passionnées, ne pouvait vaincre une sorte d'envie vague et inquiète, mêlée de récriminations contre elle-même. Hélas, elle songeait à tous les éléments de sympathie et de bonheur qui se rencontraient dans l'étrange conformité de caractère qu'elle remarquait entre Florence et Michel Renaud.